France Culture.
Comme tous les lundis, Entendez-vous, l'écho se penche sur les homo economicus que nous sommes supposés être, c'est-à-dire des êtres dotés d'une rationalité plus ou moins avérée selon les faits et selon les situations auxquelles les agents, comme on les appelle, sont confrontés. Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial pourtant déterminé par des ressorts très personnels que nous nous confrontons, celui de l'émigration, soit le choix de partir ou non de son pays ou de sa région d'origine, entre espoir d'un salaire meilleur et capacité justement à s'intégrer économiquement sur le marché du travail, attentes familiales et structure des économies des pays de départ et d'accueil, bref, entre opportunités et contraintes, les économistes ont tenté de modéliser ce comportement et la façon dont se mettent en place des liens quasiment contractuels entre ceux qui partent et ceux qui restent, des trajectoires qui, mises bout à bout, dessinent un réseau à la fois social et financier, celui des diasporas dont la présence joue un rôle parfois déterminant dans les calculs à l'origine des stratégies migratoires. L'immigration, sujet politique brûlant, pourrait faire l'objet d'un référendum réclamé par l'extrême droite. Le Premier ministre François Bayrou s'est de son côté engagé il y a 3 jours à ouvrir un débat large, je cite, à ce sujet. L'immigration donc est aussi un objet pour la science économique qui, comme souvent, comme toujours presque, voit ses modèles mis à la rude épreuve des faits, mais donne aussi des clés de compréhension d'un phénomène particulièrement hétérogène. C'est donc aux déterminants économiques de la migration que nous allons aujourd'hui nous intéresser dans cette émission programmée et préparée par Diane Devancet, réalisé par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Ludovic Auger. Et 2 invités sont avec nous aujourd'hui. Flore Gubert, vous êtes économiste, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et également directrice adjointe de l'ICM, l'Institut Convergence Migration. Bonjour.
Bonjour.
Simone Bertoli, vous êtes avec nous à distance. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Clermont-Auvergne et directeur du CERDI, le Centre d'études et de recherche sur le développement international. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Alors pour commencer, Flore Gubert, une question vaste et pourtant essentielle pour bien comprendre dans quel champ disciplinaire on se situe, celui de l'économie bien sûr, mais finalement pourquoi les économistes se préoccupent-ils des phénomènes migratoires, au nom de quoi? Et puis vous-même en tant qu'économiste justement, quel a été votre champ d'observation du phénomène?
Les économistes se sont intéressés aux migrations parce que c'est une des dimensions de la mondialisation, avec le commerce international et les flux de capitaux. La circulation des hommes fait partie donc de cette mondialisation et elle entraîne un certain nombre de phénomènes, tant pour les pays d'origine que pour les pays d'arrivée, qui relèvent de la science économique, des impacts sur le marché du travail à l'origine et à destination, des impacts sur via la circulation des transferts que renvoient les migrants à leur pays d'origine. Donc tous ces éléments-là justifient que les économistes se soient intéressés à cette question.
Et de la même façon que dans la théorie économique en général, on distingue très souvent, et peut-être de façon schématique, mais en tout cas c'est le clivage qui reste entre hétérodoxe et orthodoxe, est-ce que ce clivage prévaut aussi dès lors qu'on est un ou une économiste qui s'occupe des questions de migration? Est-ce qu'il y a des écoles en la matière?
Plus que des écoles, je dirais que en fait, ce sur quoi les chercheurs vont se concentrer va un petit peu dépendre de leur discipline d'appartenance. Les économistes vont peut-être davantage insister sur l'impact économique de la migration, les déterminants économiques de la migration, quand les sociologues vont peut-être davantage s'intéresser au contexte dans lequel est entreprise la migration, le rôle de la famille, le rôle des réseaux, même si ces aspects-là sont pas absents des travaux des économistes. Les anthropologues vont réfléchir à l'impact que peut avoir la migration sur les structures familiales, l'impact sur les communautés, l'organisation sociale. Et donc, je dirais que c'est plutôt ça, à mon avis, qui va distinguer les travaux plus que des différences d'école. Et d'ailleurs, incidemment, ça me permet de dire que les économistes sont très souvent d'accord, en fait, sur cette thématique des migrations, que ce soit sur les déterminants de la migration, sur les conséquences économiques de la migration. Je crois que c'est un domaine, il y en a très certainement d'autres, mais c'est un domaine sur lequel les économistes sont relativement d'accord, hein, et qu'il y a, pas mal consensus. En fait.
Simone Bertoli, cette idée de consensus parmi les économistes, dès lors qu'il est question de stratégie migratoire et de migration de façon plus générale, c'est une vision, un point de vue que vous partagez également ?
Oui, je les partage. Effectivement, pour répondre à certaines remarques de Flore Goubert, les premières économistes qui se sont intéressés à la question des migrations internationales, c'était surtout des économistes du travail qui s'intéressaient aux répercussions des flux migratoires sur les travailleurs natifs dans les pays d'accueil. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués pour essayer de capter l'impact, par exemple, sur les salaires, les taux de chômage. Et c'est vrai que parfois, il y a des études qui soulignent des impacts faiblement négatifs ou des études qui montrent des impacts faiblement positifs, mais ils sont toujours très rapprochés des euros. Donc effectivement, il y a un consensus là-dessus. Après les économistes du travail, je pense que des économistes internationaux sont intéressés à la question. En utilisant les mêmes modèles qui sont déployés par rapport à l'analyse des déterminants des flux commerciaux. Donc, il ne s'agit pas seulement de décider si partir ou pas, mais il s'agit aussi de choisir son pays d'accueil, de destination. Et donc, quels sont les facteurs qui déterminent l'ampleur des flux migratoires bilatéraux entre chaque pays d'origine et des destinations. Et plus récemment, aussi des économistes de développement, comme Flore et comme moi, sont aussi intéressés à la question des migrations internationales pour essayer d'étudier les conséquences pour les pays d'origine qui sont souvent les paquets de pays à faible revenu.
Simone Bertoli, ce qu'on entend, c'est qu'il y a finalement plusieurs champs disciplinaires à l'intérieur de l'économie qui permettent de se saisir du phénomène. Vous-même, en tant qu'économiste, sur quoi vous êtes-vous penché plus spécifiquement et pourquoi vous vous êtes dit « oui, ce sont ces questions-là de migration, ce sont ces questions-là de choix aussi, comme vous l'avez dit, entre les pays, de stratégie migratoire qui m'intéresse. Pourquoi ce choix-là ? »
Alors, ces choix-là, je pense que... Parce que les migrations internationales, en partie, reflètent des importants différentiels de revenus par tête entre pays. Donc, c'est, entre guillemets, quelque chose qui est très lié à l'inégalité entre différentes sociétés dans le monde. Donc, c'est ça qui a suscité mon intérêt. Et ensuite, je pense, parce que c'est des questions qui sont très liées vraiment au terme de la rationalité économique. Parfois, on se pose la question, est-ce que les flux migratoires sont liés à une surestimation de la part des migrants, des gains liés à la migration, une sous-estimation des risques ou des coûts, ou c'est tout simplement effectivement un choix rationnel qui répond au différentiel de conditions de vie entre pays. Donc je pense que c'est un sujet naturel, et moi je me suis intéressé à l'analyse du choix des localisations, donc où c'est dirigé, et aussi aux implications pour les pays d'origine, parce qu'il y a énormément de pays dans le monde qui reçoivent des transferts d'immigrants très conséquents, et donc c'est naturel de se poser la question de quels sont leurs effets.
Et de savoir quel va être l'impact effectivement de ces départs et puis potentiellement de ces retours aussi. Simone Bertoli, une dernière question. Selon les estimations de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, 280 millions de personnes vivaient dans un pays autre que leur pays de naissance en 2020, soit 128 millions de plus qu'en 1990 et plus de trois fois plus qu'en 1970. Est-ce aussi parce que c'est un phénomène de plus en plus important que les économistes sont sommés de s'en saisir ?
Alors, je pense que l'importance du phénomène dépend un peu du point de vue, parce que c'est vrai qu'en termes absolus, la croissance est impressionnante, comme vous venez de la rappeler, mais elle n'est pas beaucoup plus forte que les taux de croissance de la population mondiale. Donc, la partie des migrants sur la population mondiale est assez stable au cours des dernières décennies. Après, si vous prenez les points de vue des pays d'accueil, effectivement, il y a énormément de pays, dont la France, qui ont connu une augmentation importante de la part de la population qui est née à l'étranger. Donc, du point de vue du pays d'accueil, oui, les phénomènes deviennent de plus en plus importants et effectivement, c'est là motive l'intérêt de nos disciplines.
Et on voit qu'il faut remettre dans un contexte démographique plus large. Flore Goubert, peut-être un dernier point chiffre, comme on dit, et méthodologie. On va en citer pas mal au cours de l'émission et c'est aussi pour cela que je me permets de faire ce petit détour. Dans quelle mesure les données auxquelles on a accès, et notamment en tant qu'économiste, pour justement mesurer ces flux et leur impact et plus globalement avoir un aperçu général de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans quelle mesure ces chiffres-là sont fiables ou est-ce qu'il est particulièrement compliqué d'avoir accès à des données qui reflètent l'état actuel, on va dire, de la situation?
Alors, c'est compliqué pour plusieurs raisons. La principale étant que les personnes qui migrent, par définition, se déplacent et donc elles échappent au système traditionnel de statistiques et en particulier si on pense au recensement de population. Les recensements de population, ils présentent une photographie à un moment donné du temps, quelle est la situation de la population dans un pays donné. Et donc c'est un instrument qui est très inefficace pour capter la mobilité, hein, puisque par définition on va capter les immobiles, ceux qui sont là. Donc il y a d'autres systèmes de mesure, hein, qui existent pour essayer d'approcher un peu cette mobilité, en particulier entre pays. Mais c'est vrai qu'on a des mesures qui sont souvent assez imparfaites, parce que si on s'améliore dans la quantification des flux migratoires entrants, donc qui arrivent dans un pays, on capte encore très mal ceux qui sortent. Et donc, à la fin, le stock, c'est le résultat de d'entrée et de sortie. Et donc, on voit bien que l'idée du stock, hein, en intenté, en fait, elle est souvent très, très approximative. C'est encore plus vrai pour la migration interne, c'est encore plus vrai pour des migrations qui seraient de court terme. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur un petit point qui a été évoqué tout à l'heure. Donc j'évoquais la mondialisation. Vous rappeliez que on a tendance à dire que il y a un intérêt croissant pour les migrations parce qu'elles augmentent.
C'est une amplification.
Simonet a très bien fait de rappeler qu'elles augmentent certes en termes absolus, mais c'est moins vrai en termes relatifs. Et j'ajouterais que on a connu des vagues de mondialisation où la migration était beaucoup beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. On pense en particulier aux grandes migrations transatlantiques entre l'Europe et le Nouveau Monde, hein,
qui représentaient une part beaucoup plus importante.
Voilà. Et pourquoi c'est important de le rappeler, c'est aussi parce que pas mal d'économistes et en particulier d'économistes qui font l'histoire économique se sont posé la question de savoir si ces grandes migrations transatlantique avait été un facteur de convergence entre les économies de départ, et donc on pense par exemple à l'Irlande qui était un pays très pauvre, et les économies d'arrivée. La réponse est dans une certaine mesure, oui, elles ont contribué à faire se rapprocher les niveaux de salaire de ces deux régions du monde.
Dans le contexte qui était celui de l'époque,
absolument.
Où il y avait effectivement cette proportion bien plus supérieure, on va dire, qu'à celle d'aujourd'hui, et puis une composition, une configuration de l'économie aussi du pays de départ qui était très spécifique. Bon, dans le cas d'Irlande, évidemment, une économie essentiellement rurale, mais on va revenir sur ce cas spécifique-là et puis sur cette comparaison à travers les siècles, on peut le dire. Flore Gubert, il faut tout de même dire, après cet état des lieux, que ça fait un petit bout de temps quand même que les économistes cherchent à modéliser les raisons notamment du départ et puis le choix du pays d'arrivée aussi, à en comprendre les ressorts économiques, à voir où se situe la ratio. Il s'agit au départ d'une analyse plutôt microéconomique. Dans les années 50, on s'intéresse plutôt aux mouvements internes de population. Vous l'avez déjà mentionné, mais c'est très important, je pense, de faire cette différence-là aussi. Donc, on se demande pourquoi un individu va chercher à quitter sa région de départ pour aller vers une autre région. Et aujourd'hui, par ailleurs, c'est aussi une énorme part de la migration que cette migration qui ne franchit pas de frontières. L'idée qui prévaut à l'époque, c'est que dans ce modèle, c'est la rémunération qui est un facteur déterminant. On passe d'un secteur à un autre et donc d'une zone à une autre. Est-ce essentiellement parce que la différence de salaire est significative ?
En tout cas, c'est comme ça qu'on explique la motivation au départ. C'est le fait que on pense les individus parfaitement rationnels, qui comparent leur rémunération actuelle, c'est-à-dire dans leur région de résidence, avec des perspectives de gains qu'ils pourraient avoir s'ils se déplaçaient. Et on va considérer que l'incitation à migrer est très forte s'il existe un différentiel de rémunération entre région d'origine et région d'arrivée, et si ce différentiel est suffisant, et si la personne en jouit suffisamment longtemps pour couvrir les coûts de l'investissement à migrer, c'est-à-dire les coûts de la migration. Et donc, c'est une vision extrêmement simple et peut-être simpliste de la migration, puisque on s'affranchit de toute autre contrainte et on considère que la motivation au départ est simplement le résultat d'un calcul purement économique. Quels sont les gains attendus au départ ?
Sachant que c'est aussi une vision de l'économie qui est très simplifiée, alors c'est tout l'avantage et l'inconvénient seulement de la modélisation, mais c'est aussi une économie où très clairement, il y a une très forte dualité, c'est d'ailleurs un modèle dual, entre région de départ qui, dans la majorité des cas, est rurale, vers la région d'arrivée qui, elle, est beaucoup plus industrialisée. C'est ça qui fait toute la différence, en fait, aussi dans ce différentiel de salaire-là. C'est un peu étonnant, Flore Gubert, que ce soit à ce point schématique, que finalement, il y ait cette dualité extrême entre rural et urbain. Est-ce que ce modèle-là a réussi à tenir la distance, on va dire, à garder sa pertinence ?
Tout à fait. J'ai envie de dire que ce modèle de migration, c'était pas un modèle de migration en tant que tel, c'était plutôt un modèle de développement. L'observation empirique que faisaient les économistes dans les années 60-70, c'est que finalement tous les pays occidentaux avaient connu un modèle de développement qui s'était traduit par la contraction du secteur rural au profit d'un secteur urbain, moderne, industriel. Et donc le développement est vu comme une transformation structurelle de l'économie. Et avec cette transformation structurelle, elle est autorisée par des déplacements de main-d'œuvre du secteur agricole rural vers le secteur industriel urbain. C'est le fameux modèle de Lewis, modèle de développement.
Du nom d'Arthur Lewis, qui a été prix Nobel d'économie, enfin récipiendaire du prix de la Banque de Suède en 1979.
Et voilà, en fait, dans la perspective de ce modèle-là, un pays n'est en mesure de se développer et de voir donc son secteur industriel croître uniquement, enfin en grande partie grâce à des transferts de main-d'œuvre du secteur rural vers le secteur industriel.
Sauf que vous avez mentionné les années 60, et là on a une première énigme, on va dire, ou en tout cas une première remise en cause d'une forme de rationalité. Dans les années 60, on assiste à une très forte augmentation du taux de chômage dans ces zones justement urbaines qui étaient censées être des viviers d'emploi et donc des perspectives d'avenir et des raisons de départ de fait. On le voit, il y a une forme d'irrationalité. On connaît les taux de chômage et pourtant il y a toujours ce mouvement migratoire vers les zones beaucoup plus urbaines. Ça, comment on parvient à l'expliquer, Flore Gubert ?
Alors, on parvient à l'expliquer de deux façons. La première, c'est qu'on inclut dans le calcul des individus la probabilité de trouver un emploi. Donc les individus raisonnent en termes de rémunération espérée à destination. Ça, c'est disons, la réponse la plus simple. Et puis, progressivement, on en vient à complexifier un petit peu les modèles et aussi à expliquer des choses que ce modèle très simple n'arrivait pas à expliquer. Par exemple, l'existence de migration en l'absence de différentiel de salaire. Comment est-ce possible si c'est le principal élément entrant dans la règle de décision des individus ? Comment est-il possible qu'on observe de la mobilité en l'absence de différentiel de salaire ? Et progressivement, on en est venu à se dire, sans doute la décision, elle est multifactorielle. D'abord, on peut très bien envisager qu'un individu éprouve l'envie de migrer parce qu'il a envie de découvrir ailleurs, d'ouvrir ses horizons. Et donc, ça, on voit que c'est des motifs extra-économiques, d'une certaine façon, qui peuvent intervenir dans la règle de décision. Et puis, progressivement, on réalise que le départ s'accompagne de flux en retour, qui sont les flux de transfert que l'immigrant envoie vers la famille d'origine. Et on en vient à se dire que, au fond, la décision de migrer, elle est certes peut-être en partie le résultat d'une décision individuelle, mais elle est peut-être aussi le résultat d'un choix qui serait pris par un groupe d'individus, un groupe plus large, peut-être la famille, peut-être la communauté d'origine, qui verrait dans la migration aussi un investissement dont les rendements seraient les flux de transfert en retour qui résulteraient du départ.
Et là, on voit bien l'ancrage aussi dans une économie du développement. Ce sont des économistes du développement qui parviennent à développer justement ces modèles. Simone Bertoli, on a donc un nouveau facteur qui rentre en compte, on l'a dit, celui de l'espoir et donc celui du temps. Finalement, on ne se contente pas de comparer à un moment T la différence de salaire entre deux régions, entre deux zones géographiques. On a aussi cette idée d'espoir et donc de pari fait sur l'avenir. Ce pari-là, c'est de l'incertitude, c'est du risque aussi. Dans quelle mesure finalement, le fait d'avoir accès à un réseau dans la région d'accueil joue un rôle, puisque cela diminue potentiellement le temps d'intégration au marché du travail. Est-ce que Simone Bertoli, cette dimension-là, elle est prise en compte dans cette idée de réduire le temps ?
Je pense que c'est tout à fait pris en compte et c'est très pertinent parce que dans un premier temps, l'analyse faite par les économistes, c'était bah, les individus disposent de toutes les informations pertinentes et ils sont capables de choisir la localisation qui offre les opportunités économiques plus importantes, en prenant en compte, comme le disait Fleur, les coûts des migrations. Mais en réalité, la migration implique énormément d'incertitudes et la diaspora, la présence d'une large communauté dans les pays d'accueil, favoriser les flux migratoires en réduisant notamment les incertitudes concernant, par exemple, les conditions économiques dans les pays d'accueil, les opportunités d'occupation. Donc, c'est un facteur extrêmement important. Mais je voudrais aussi, et donc, comme le disait Flore, on peut avoir des flux migratoires importants, même en l'absence des différentiels des salaires, parce que la migration peut jouer un rôle assurantiel. C'est-à-dire, différentes zones du monde ne sont pas exposées au même choc. Et donc, c'est important pour une famille, pour une communauté, de disposer de certains de ses membres, de ces membres qui sont localisés ailleurs et qui pourraient, par exemple, envoyer davantage d'argent en cas de crise économique qui frappe la zone d'origine des migrants. Donc, il y a une dimension assurantielle, il y a une dimension de diversification du risque qui est importante dans l'investissement de la migration.
Et donc là,
autre chose dont je voudrais parler.
Oui, allez-y.
Excuse-moi.
Allez-y.
Non, je voulais dire, je voudrais mettre les choses en perspective. Vous avez parlé de 280 millions de migrants dans le monde. C'est disons, 3,5% de la population mondiale. Donc, ça veut dire que la grande majorité des personnes ne bougent pas entre les frontières, même dans un monde qui est caractérisé par des fortes inégalités entre pays. Donc, cela veut dire que si les gens sont rationnels et ne bougent pas en présence de forts différentiels de revenus entre pays, cela veut dire qu'il doit y avoir des coûts très importants dans la migration. Et c'est aussi ça qui rend la décision d'immigrer une décision collective. C'est un investissement cher et comme tout investissement peut être soumis à une contrainte des liquidités. Donc les rôles de la famille, par exemple de la communauté ou de la diaspora des gens dans les pays d'accueil, c'est de permettre les financements de cette migration. C'est un investissement qui ne serait pas possible si une personne, l'émigrant, devait aussi financer lui-même cet investissement.
Et donc on le voit,
le rôle d'un groupe beaucoup plus large.
On le voit, Simone Bertoli, je suis désolée de vous avoir interrompu, je rappelle que vous êtes à distance, mais on le voit, on a un passage donc, qui s'effectue d'une modélisation qui prendrait en compte davantage l'idée d'une décision individuelle à la compréhension progressive des liens aussi qui font groupe, qui font aussi société finalement. Et de fait, le calcul des avantages à émigrer ne s'établit pas uniquement en fonction des revenus espérés. C'est un calcul, on l'a compris, entre ces revenus espérés et le coût, vous l'avez dit, du départ. Un coût qui n'est pas uniquement monétaire. C'est ce qu'explique Lassine Bambé, responsable Côte d'Ivoire de l'association AVSI, une association italienne engagée sur les questions de migration. Il l'expliquait en mai 2024.
Les jeunes qui partent pour la route de la migration font partie d'une stratégie familiale. Quand je dis stratégie familiale, parfois ils sont vus comme des investissements de la famille, comme des placements en termes de capital économique et social pour la famille. Mais imaginez-vous que cette personne dont on a financé le départ par association, avec un objectif commun, social, communautaire, recherché, et que cette personne arrive sans réussite. C'est vu comme une personne qui a placé ses capitaux en banque et qui n'a pas été capable de générer un intérêt. Donc, par analogie, ce placement social s'attend comme une sorte de réinvestissement dans la communauté en termes financiers, économiques, mais aussi en termes sociaux et en termes psychosociaux. On dira par exemple, « Ah, le fils de X est arrivé de Paris. » Le fils de X, mais la fille de X est arrivée d'Italie. Ah, quel honneur pour la famille. Donc, il y a cette perception de l'apport en termes économiques aussi, en termes de visage social, si je peux le dire ainsi.
On le voit, l'importance des facteurs sociaux et psychosociaux est davantage prise en compte. En tout cas, c'est une réalité qui est mise sur la table et qui est largement mentionnée. Fleur Gubert, on a pour l'instant évoqué des modèles plutôt néoclassiques qui cherchent à comprendre et à essayer de tenter de tirer une théorie ou en tout cas une forme de mathématisation, de modélisation des comportements de ceux qui décident de partir. Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté justement à cette importance? Là, on l'entendait à l'instant, du poids de l'opinion de la famille, des enjeux de réputation, etc. Est-ce que ça vient bouleverser encore une fois la modélisation économique?
Non, non, je crois pas. Je pense que c'est simplement une variable à intégrer de plus dans le modèle. La pression redistributive, en fait, que peut exercer la famille sur celui qui part. Cette nécessité qu'il a de renvoyer une partie de ses gains au pays d'origine. Et là encore, on pourrait, si on poussait à l'extrême, envisager ça comme un calcul parfaitement rationnel, à la fois pour le migrant et pour ceux qui restent. Hein. Si on imagine que ce sont là deux parties à un contrat qui ne serait pas écrit, mais un contrat moral ou implicite. Celui qui part bénéficie en amont du financement de son déplacement, bénéficie ensuite à l'arrivée du soutien que peut lui apporter la diaspora, ou en tout cas que peuvent lui apporter ceux qui l'ont précédé. Donc ça, ce sont tous les droits dont bénéficie celui qui part. Et puis en retour, ça implique des devoirs, et en particulier le devoir de renvoyer une partie des gains pour le pays d'origine. Et donc, d'une certaine façon, le migrant peut aussi faire un calcul rationnel et peser le pour et le contre d'un comportement de transfert qui, certes, est très, très, représente une charge financière importante, mais en même temps, lui permet aussi de bénéficier du soutien dans le pays d'accueil. Et d'une certaine façon, le caractère très, très structuré de la communauté, le fait que le migrant va se retrouver inséré dans des réseaux, vient contribuer à cimenter en fait le contrat que ce migrant a passé avec sa famille, parce que tout l'entourage du migrant va contribuer finalement, va exercer un contrôle social sur chacun, chaque membre du réseau, s'assurer que chacun se plie bien, se conforme bien à ce qu'on attend de lui.
Oui, Fleur Gubert, il faut peut-être préciser, quand on parle de contrat, il ne s'agit pas nécessairement d'un contrat écrit en bonne et due forme, quoique je ne sais pas si c'est à vous de me le dire, mais c'est plutôt effectivement en termes de contrôle social plus qu'autre chose.
Oui, enfin, par contrat, ce que je veux dire, c'est que y a cet accord tacite que celui qui part ou ceux qui partent ne doivent pas oublier ceux qui sont restés.
Simone Bertoli, sur la mise en place de ces contrats implicites et de cette décision de partir qui est aussi un investissement pour les familles.
Oui, tout à fait. Je voudrais dire que comme tout contrat, même implicite, il est exposé au risque du non-respect des conditions. Donc, qu'est-ce que je vais dire pour cela? Quand vous regardez les données collectées dans des enquêtes auprès des ménages, dans des pays de départ de migrants, il y a un nombre considérable de ménages, disons 30-35%, qui vous disent d'avoir un membre qui est parti, mais que maintenant vous disent de ne pas recevoir des transferts. Donc, la migration, comme on vient de la décrire, c'est quelque chose qui implique une séparation physique entre l'immigrant et sa famille. Et cette séparation, même s'il est soumise au contrôle exercé par la diaspora dont Fleur vient de parler, peut aussi distendre les relations entre l'immigrant et sa famille d'origine et amener cette personne à ne plus envoyer des transferts. Donc, comme tout investissement, c'est vraiment un investissement risqué pour ceux qui ne décident pas de partir. L'immigrant lui-même va tirer bénéfice en termes économiques de sa migration. Les personnes qui ont contribué à financer cette migration les font que dans la mesure où l'immigrant envoie des transferts. Mais cela n'arrive pas toujours.
Sachant, Simone Bertoli, qu'il faut faire là une précision importante qu'on n'a peut-être pas assez explicitement exposée depuis le début de cette émission, mais cela vaut essentiellement pour les pays à faible revenu. Je crois que vous l'avez dit vous-même, mais peut-être que ces décisions-là, ce mode de mise en place de contrôle social et puis de notion d'investissement valent beaucoup moins, par exemple, lorsqu'on est dans un cas de migration dans des pays à haut revenu. C'est une spécificité des pays à faible revenu.
Tout à fait, je suis d'accord. Merci pour cette précision. C'est vrai, des pays à haut revenu, les personnes sont beaucoup plus en mesure de partir sans avoir besoin de s'appuyer sur les réseaux familiales. Moi, je suis italien, je suis arrivé en France en bénéficiant d'un accord de libre circulation entre mon pays de naissance et mon pays de résidence actuel. Cela veut dire que c'est une migration assez coûteuse et donc qui n'implique pas forcément d'autres membres de ma famille dans son financement, et donc j'avais aucun accord implicite avec mes parents par rapport au fait que j'aurais transféré de l'argent. Voilà.
Et c'est effectivement une précision à faire. Flore Guber, finalement, quand on prend en compte tous les facteurs qu'on vient d'exposer, à la fois l'idée d'attente, en tout cas de perspective, alors pas forcément en termes de salaire à un moment donné, mais dans le futur, le fait que le marché du travail aussi soit propice à valoriser ce que la personne va apporter ou peut trouver comme emploi, finalement, avec cette notion de miser, de parier sur le temps potentiellement long, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va trouver un emploi ou non. On a une forme de portrait robot un peu qui se dégage. On a envie de se dire que, de façon très logique, c'est plutôt des individus jeunes qui ont le temps de miser sur cette intégration, des gens plutôt formés aussi, puisque le capital humain aussi a été très important dans cette modélisation. Est-ce qu'on arrive comme ça à avoir une image plutôt réaliste de effectivement ceux qui décident de partir ?
C'est ce que vous dites est tout à fait exact, c'est-à-dire que la migration va impliquer plus d'hommes jeunes ou plus d'hommes ou de femmes jeunes que de personnes d'enfants ou de personnes âgées, évidemment, et parce que, comme vous l'avez dit, c'est une question d'horizon temporel, hein, et donc ça c'est effectivement un premier aspect. Sur l'éducation, alors c'est vrai qu'on observe dans la plupart des pays d'origine, c'est que le taux d'émigration des individus et d'autant plus élevés qui sont instruits. Si on prend, je crois que c'est l'exemple du Cambodge, par exemple, je crois que le taux d'émigration chez les personnes qui n'auraient fait qu'un cycle primaire d'éducation, qu'un cycle primaire à l'école, pardon, le taux d'émigration doit être autour de 3%, et je crois qu'il s'élève à 20% chez les personnes qui sont qualifiées. Donc effectivement, on a une tendance à un accroissement du niveau d'éducation des migrants qui est un peu mécanique, hein, qui résulte en partie du fait que les populations à l'origine sont de plus en plus éduquées, hein, et donc forcément les personnes qui quittent ces pays sont elles aussi de plus en plus éduquées. Ce qui ne veut pas dire pour autant que dans les flux migratoires on ne trouve que des personnes éduquées. Hein, il y a aussi parce qu'il y a quand même aussi l'enjeu de la question de savoir si le capital humain acquis dans le pays d'origine peut être valorisé et bien valorisé à destination. Et donc ça peut, là, on peut aborder toute la question de la reconnaissance des diplômes, du gaspillage des cerveaux, parce que pour des raisons de discrimination, pour des raisons de non-maîtrise de la langue au départ. Et donc, ce qu'on observe, c'est que, de façon générale, les personnes qualifiées ont des difficultés à obtenir des emplois à hauteur de leur niveau de qualification.
C'est exactement ce que j'allais vous demander, Flore Guber, parce que là aussi, on pourrait se dire que toute rationalité est complètement mise de côté. En 2023, selon l'INSEE, 26% des immigrés venus d'Afrique occupent un emploi moins qualifié qu'avant la migration. Ça remet quand même en cause cette idée de calcul. Est-ce que c'est pris en compte d'une façon ou d'une autre ?
Sauf qu'il faut comparer, ça avec quelles sont leurs perspectives d'emploi dans le pays d'origine.
Et le niveau de salaire.
Les niveaux de salaire. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le pays d'origine, la grande difficulté des individus qualifiés, c'est que très souvent le marché du travail ne propose pas un nombre d'emplois qualifiés qui soit de la même ampleur que le nombre de qualifiés qui rentrent chaque année sur le marché du travail. Donc on a beaucoup de qualifiés qui sont en situation de chômage ou de sous-emploi. D'ailleurs on a ce paradoxe, hein, qu'on observe dans les pays en développement et qu'on observe beaucoup moins dans les pays développés, voire pas du tout, et plutôt l'inverse même. C'est que le taux de chômage, en fait, le niveau d'éducation ne protège pas contre le chômage. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que le taux de chômage est plutôt plus élevé chez les individus les plus qualifiés que chez les individus peu qualifiés. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comparer. C'est-à-dire quelle serait la situation de l'individu qualifié s'il n'avait pas migré et quelle est sa situation dans le pays d'accueil, même si, voilà, on peut déplorer que ces qualifications soient mal valorisées.
Donc on a à la fois des facteurs très individuels, des facteurs familiaux aussi. On l'a compris. Flore Guber, il y a un dernier point aussi qu'il faut prendre en compte, qui là est beaucoup plus macroéconomique et plus forcément micro. Et c'est notamment Larry Schlastad qui l'a dit. Je le prononce sans doute très très mal, mais je conseille aux auditeurs, aux auditrices de s'en référer à votre article. Mais c'est donc un économiste des années 60 qui le dit. Si le pays d'accueil est soumis à une forme de rigidité du salaire, du fait de la présence de syndicats ou de minimums légaux en termes de salaire, l'arrivée de nouveaux individus sur le marché du travail va nécessairement entraîner du chômage et entraîner donc de la migration. On voit qu'il y a une forme serpent qui se mord la queue aussi. On pourrait se dire que, au-delà de tous les facteurs qu'on vient d'évoquer, il y a aussi la structure économique, la conjoncture économique même du pays d'accueil qui compte énormément dans le choix de la décision.
Absolument. Et là, je dirais que ce qu'on montre très bien les données lorsqu'on regarde la corrélation entre les cycles économiques des pays d'accueil et les flux migratoires, et ben ce qu'on observe, c'est que, on en revient à la rationalité de ceux qui partent, c'est que les flux migratoires sont très corrélés au cycle économique. Et en particulier, ils sont très réactifs à la demande de travail qui émane des pays d'accueil. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez beaucoup d'emplois qui sont créés dans un pays, et ben vous allez avoir plus de migration. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Simonet tout à l'heure, la diaspora fait passer l'information, et puis les médias font également passer cette information, qu'un pays donné connaît une embellie économique et donc a des besoins et des métiers en tension, a des besoins en travailleurs, et ça motive des personnes à venir se rendre dans ce pays. Et donc d'ailleurs on pourrait se rappeler les années 80, hein, le discours chez les politiques a complètement changé, hein. Dans les années 80, on dénonçait on disait que le nombre de chômeurs était exactement équivalent au nombre d'immigrés, et c'était en particulier le discours politique en France de l'extrême droite. Ce discours-là, aujourd'hui, il a complètement disparu. C'est-à-dire, plus aucun homme ou femme politique ne mettrait en avant le fait qu'on a une corrélation forte entre le nombre d'immigrés et le nombre de chômeurs en France. Pourquoi ? Parce que, pour cette raison-là que j'ai avancé, c'est le fait que, en fait, les flux migratoires sont corrélés avec la demande de travail, les besoins en travail de l'économie d'arrivée.
Simonet Bertoli, sur cette question aussi de la structure des pays d'accueil, alors que ce soit conjoncturel, on parlait de cycle, ou même beaucoup plus structurel, puisque c'est tout, là aussi l'information circule, on l'imagine bien, sur la présence de syndicats, de minima sociaux, tout cela joue un rôle aussi dans la stratégie migratoire.
Oui, tout à fait, ça joue un rôle, et je pense à nouveau c'est important d'essayer de comprendre pourquoi, même face à toutes ces incertitudes, au risque de chômage, au risque de ne pas retrouver une occupation aussi qualifiée que celle qu'on avait dans notre pays de départ, pourquoi les personnes partent ? Parce qu'à nouveau, ça peut être tentant de dire c'est des choix irrationnels, c'est des choix erronés. Je pense que cela peut être vrai pour un individu, mais ça ne peut pas être vrai à l'agrégé. C'est-à-dire, en tant qu'économiste, on croit qu'un individu peut se tromper, mais collectivement, c'est difficile que des flux migratoires puissent s'appuyer sur des erreurs systématiques. Et donc, je vous donne juste un exemple. Pourquoi ça peut être rationnel d'accepter une occupation moins qualifiée que celle qu'on avait avant dès le départ ? Parce qu'il y a la question, comme le disait Fleur, de la reconnaissance de ces diplômes obtenus dans les pays d'origine. Il y a la nécessité, pour avoir un emploi plus qualifié, d'investir dans la maîtrise de la langue du pays d'accueil, chose que tous les immigrés n'ont pas de départ. Et donc, cela requiert du temps. Donc, cela dépend de quel est l'horizon temporel de la migration. Parce qu'il y a quelque chose que je pense qu'on n'a pas encore dit de façon suffisamment explicite, c'est qu'une partie très importante des épisodes d'immigration, y compris de la migration internationale, sont des épisodes temporaires. Autrement dit, beaucoup de migrants retournent des façons délibérées, pas forcées, hein, on ne parle pas de OQTF ou d'expulsion, retour des façons délibérées dans leur pays. Et la migration était délibérément qu'étemporaire du départ, parce que c'était une façon d'accumuler des ressources. Donc ça peut être plus simple d'accumuler des ressources avec une occupation moins qualifiée, mais que je peux obtenir plus rapidement, qui me permet de générer de l'épargne, que je peux ensuite réinvestir dans mon pays d'origine une fois que je serai rentré. Donc, à nouveau, il faut faire attention à inférer de l'irrationalité ou des erreurs du fait qu'il y a de la migration, même en présence du chômage dans les pays d'accueil, ou même en présence du fait qu'on obtient un travail moins qualifié.
Et donc, on voit que la vision de long terme compte aussi énormément. Vous l'avez dit, accumuler des ressources pour ensuite potentiellement revenir dans la région ou dans le pays de départ fait partie aussi de la stratégie. On va voir quels vont être les effets aussi de ces retours. En 1996, l'économiste William Carrington développe un modèle dynamique selon lequel les coûts de la migration diminuent à mesure que le nombre de migrants présents sur le lieu de destination augmente. C'est ce qu'on a dit à travers l'exemple de la diaspora et de la circulation de l'information, entre autres, sachant sachant que l'information est aussi une denrée en soi et a une valeur. Le choix de départ, donc initialement marqué par l'incertitude, devient donc de moins en moins risqué lorsqu'une communauté se trouve déjà présente sur place. C'est ce que montrent ces témoignages issus d'un reportage de France 24 sur la diaspora indienne aux États-Unis en 2010.
Les Indiens aiment les États-Unis. Ici, nous pouvons être chefs d'entreprise et lorsque nous gagnons de l'argent, nous en envoyons aux membres de notre famille qui sont restés en Inde. Nous avons été les premiers Sikhs à nous installer à Miami Beach. Ce fut une expérience difficile. Nous avons dû tout laisser derrière nous pour venir vivre aux États-Unis.
Nous avions déjà de la famille aux États-Unis. Cela nous a beaucoup facilité les choses. Si nous avions dû envoyer nos enfants là-bas tout seuls, livrés à eux-mêmes, ça aurait été beaucoup plus difficile.
Simone Bertoli, une fois qu'on a dit tout cela et qu'on voit finalement comment la diaspora œuvre à la réduction de l'incertitude, on pourrait se dire aussi que c'est comme cela que s'explique une forme d'inertie géographique, c'est aussi comme ça que s'explique le fait que se perpétuent dans le temps des choix de destination et en fonction de là où se trouve la communauté.
Vous avez absolument raison. La réduction des coûts migratoires va favoriser les nouveaux arrivés et donc ça va perpétuer la distribution géographique. Il y a énormément de stabilité. Il y a des cas bien connus. Par exemple, au début du XXe siècle, les États-Unis ont recruté de la main-d'œuvre mexicaine pour travailler dans les secteurs agricoles aux États-Unis au long du chemin des fers qui existait à l'époque, parce que c'était beaucoup plus simple d'aller recruter des fermiers au long du chemin des fers ensuite. Les ramener aux États-Unis. Mais on voit que même aujourd'hui, et même si ces chemins de fer n'existent plus, et depuis des décennies, les États mexicains qui sont localisés au long de cet ancien chemin de fer, je répète, plus existant, ont tendance à envoyer davantage de migrants aux États-Unis. On interprète cela comme un effet des réseaux migratoires passés via la réduction des coûts. Une autre chose que je pense c'est important.
Cela dit, oui, Simone Bertoli, je précise tout de même que vous avez beaucoup travaillé sur un cas spécifique, celui des mouvements migratoires des Équatoriens. Et là, c'est un peu un contre-exemple, quelque part. Vous dites que traditionnellement, ces derniers migraient essentiellement vers les États-Unis, eux aussi, et que tout a changé dans les années 90. Donc, il peut y avoir des ruptures quand même. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Il peut y avoir des ruptures parce qu'effectivement, la migration était concentrée vers l'État de New York à partir du sud de l'Équateur. À la fin des années 90, l'Équateur traverse quelque chose qu'on pourrait définir en tempête parfaite, c'est-à-dire un ensemble de facteurs macroéconomiques extrêmement négatifs qui génèrent une crise économique sans précédent et poussent une grande partie de cette population à migrer. On parle de flux sortants d'environ 600 000 habitants dans l'espace de 6-7 ans avec une population au départ de 12 millions, donc vraiment des flux extrêmement importants, mais qui sont dirigés plutôt vers l'Espagne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec la crise économique, la contrainte des liquidités à l'investissement dans la migration vers les États-Unis était devenue beaucoup plus forte, et les Équatoriens se sont rendus compte que l'Espagne, depuis des décennies, mais c'était quelque chose qui n'avait pas été utilisé, proposait aux ressortissants de ces anciennes colonies en Amérique latine la possibilité de rentrer en Espagne sans visa pour une période de 90 jours. Donc, ils pouvaient rentrer de façon régulière dans les pays, ensuite rester dans les pays de façon irrégulière, mais avec l'Espagne qui avait mis ensuite en place en 2000, en 2001, en 2005, plusieurs régularisations des immigrés en situation irrégulière. Mmh. Donc, les Équatoriens ont renoncé à une migration qui offrait des salaires beaucoup plus élevés vers les États-Unis, à faveur de la migration vers un pays, l'Espagne, qui offrait des salaires beaucoup moins attractifs, mais qui était beaucoup plus accessible à cause de la politique des visas. Chose qui était d'autant plus importante au moment d'une crise migratoire, d'une crise économique, désolé, dans les pays d'origine. Donc effectivement, des épisodes de crise peuvent générer une rupture dans l'inertie migratoire d'un pays.
Et donc, modifie peut-être aussi la focale de l'arbitrage, qui passe d'un arbitrage économique à un arbitrage plus administratif, ou en tout cas de facilité aussi du quotidien, tout simplement, à vivre sur un territoire donné. Reste à savoir quels vont être les effets des liens entre cette fameuse communauté restée dans la région ou le pays de départ, on l'a compris, qui investit quelque part aussi sur la personne qui part, et dans quelle mesure les transferts d'argent permettent ou non de réduire les inégalités et donc jouent sur les mouvements de migration. On en parle juste après Diaspora, un titre interprété par le Zimbabwéen Buza Mkaya.
Uhambile wachia bazali bake uhambile wachia ukoo
usinazi wake uhambile wachia indoda yake uhambile wachia abantwana bakhe
à l'écoute de France Culture. Les stratégies migratoires sont-elles des choix économiques rationnels et quel rôle jouent les diasporas dans la décision de partir ou pas? C'est notre sujet aujourd'hui d'Entendez-vous l'écho et nous sommes toujours en compagnie des économistes Flore Gubert, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration, et de Simone Bertoli, professeure à l'Université Clermont-Auvergne et directeur du CERDI, le Centre d'études et de recherche sur le développement international. Flore Gubert, je reprends là le fil de notre tout début d'émission, et parce que l'exemple tiré du passé nous aide parfois, au moins par comparaison, à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On a mentionné les fameux flux de migration du 19e siècle qui ont été très marquants parce qu'ils étaient extrêmement fournis, qu'ils représentaient en proportion une part extrêmement importante de la population du pays de départ, et aussi parce qu'il s'agissait presque d'une mise en application de la modélisation économique, à savoir des populations qui venaient de milieux ruraux, relativement peu diplômé, peu formé, et qui allait donc tenter sa chance majoritairement aux États-Unis. Est-ce que on peut continuer à tirer le fil, et est-ce que la théorie s'est vérifiée? Est-ce que véritablement ça a eu un effet sur le marché du travail dans les pays de départ? Est-ce qu'on a vu, parce que cette population-là partait, le marché souffler un peu, pour le dire ainsi?
Parce que ces migrations étaient massives, il y a eu un impact. Oui, il y a eu un impact et un phénomène de convergence entre les économies de départ et les économies d'arrivée. C'est-à-dire convergence de salaires en particulier. Et donc oui, ça a été très bien documenté par des économistes, des historiens économiques.
Et en revanche, aujourd'hui, ce n'est plus du tout pareil. En termes de proportion, on est à des chiffres bien moindres. En termes de catégorie aussi de population et en termes de formation, ce n'est plus du tout la même chose. Simone Bertoli, aujourd'hui, les flux migratoires n'ont plus rien de comparable. Est-ce que, de fait, les effets sur le pays de départ et sur le marché du travail de ce pays de départ n'ont plus du tout les mêmes effets?
Alors, disons, effectivement, c'est une question... si on pense aux migrations d'il y a un siècle, l'Italie, l'Irlande envoyaient vers l'Amérique du Nord environ 10% de leur population chaque décennie. Les cas de l'Équateur que j'ai cité tout à l'heure, même après une crise économique majeure, c'est environ 5% de la population qui a réussi à partir. Donc pour une grande partie des pays actuellement, les flux migratoires n'ont pas une taille suffisamment importante pour générer des impacts forts sur les salaires. Cela arrive parfois. Donc, par exemple, les cas du Mexique a été étudié. On a une hausse des salaires au Mexique suite à la migration vers les États-Unis pour les travailleurs qui ont des caractéristiques proches des migrants vers les États-Unis. Donc, même niveau d'éducation, même tranche d'âge et même genre, on voit des impacts. Mais le Mexique, c'est un peu exceptionnel en termes des tailles actuelles des flux migratoires à cause de la proximité géographique avec les États-Unis. Cela ne veut pas dire par contre, qu'il n'y a pas d'effet. Il peut y avoir d'autres effets importants. On s'est intéressé pendant un petit moment, surtout en tant qu'économiste de développement, aux répercussions de la migration internationale sous l'incidence de la pauvreté dans les pays d'origine. Les résultats n'ont pas été toujours très clairs et nets, parce que l'impact direct de la migration sous la pauvreté dans les pays d'origine est très lié à qui migre, pas seulement à la taille des flux migratoires. Donc, si la migration est très chère et très peu accessible, peu de ménages qui sont plus exposés à la pauvreté ont la capacité de financer l'investissement dans la migration. Donc, c'est difficile de s'attendre à des effets directs sur un terme de baisse de l'incidence de la pauvreté très important. Donc, on a parlé de la diaspora. La diaspora modifie pas seulement les coûts de la migration, mais aussi les profils de ceux qui migrent. Typiquement, dans les phases initiales de la migration, comme on l'a entendu tout à l'heure, les migrants sont très positivement sélectionnés. C'est-à-dire, ils viennent de la partie droite de la distribution des revenus du pays d'origine. À fur et à mesure que les réseaux migratoires se développent, cette sélection devient intermédiaire et parfois aussi négative. C'est-à-dire, ça permet aussi à des personnes moins qualifiées ou à des ménages avec des revenus moindres à investir dans la migration. Et cela donc modifie les implications de la migration sur l'inégalité et sur la pauvreté dans les pays d'origine.
Flore Gubert, dans quelle mesure, puisqu'on a parlé d'investissement, on a parlé certes de coûts qui seraient des coûts informationnels et puis de coûts liés au risque, mais aussi de coûts monétaires, financiers. On a parlé d'investissement financier aussi pour financer le départ. Dans quelle mesure ces départs-là sont le fait effectivement de catégories de population qui appartiennent plutôt à la classe moyenne relativement aisée qu'à des ménages très très pauvres? Est-ce que ça on le sait? Et de fait, dans quelle mesure cela participe à un phénomène que les économistes connaissent bien, parce que souvent ils le conspuent, à cette fuite de cerveau qui aurait pu avoir des retombées, en tout cas générer des retombées économiques dans leur pays de départ?
Alors ce que dit Simonet est tout à fait exact, c'est-à-dire que la migration étant coûteuse et nécessitant donc des ressources financières et ressources informationnelles, etc., c'est vrai que lorsqu'elle démarre, elle va être le fait de personnes qui sont plutôt favorisées. Alors pas forcément les plus riches, parce que les plus riches a priori se débrouillent relativement bien dans leur pays, mais va davantage engager des personnes qui se situent au milieu de la distribution des revenus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe aussi à un niveau macroéconomique. Ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui envoient le plus de migrants internationaux, mais des pays à revenus intermédiaires. Et pour la même raison, en fait, ce que l'explication microéconomique ensuite vaut pour un niveau macro. Alors, la fuite des cerveaux, c'est un peu une autre question. La fuite des cerveaux, donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait, ça dénonce le fait que un pays investit dans sa population et paye le coût de l'éducation de sa population, et donc c'est un investissement en capital humain, et le pays ne bénéficie pas de cet investissement puisque les personnes, une fois formées, s'en vont. Et donc ça, c'est une question qui a pas mal occupé les économistes, la question de savoir si effectivement on avait un problème on observait cette fuite des cerveaux, et la question qui se sont posées, c'est est-ce que c'est un réel coût dans la mesure où beaucoup de cerveaux, une fois formés, en fait, ne trouvent pas d'emploi dans le pays d'origine. Il y a eu pas mal de travaux sur cette question, et les conclusions de ces travaux en fait sont beaucoup plus nuancées que celles qu'on pouvait avoir dans les années 70, où on pensait que c'était nécessairement un coût pour le pays d'origine, puisqu'on s'est aperçu effectivement, en tenant compte des conditions d'emploi dans le pays d'origine, etc., qu'il pouvait aussi y avoir un gaspillage des cerveaux dans le pays d'origine, et qu'au fond, le fait que ces cerveaux partent avec en retour des transferts pouvait être finalement aussi bénéfique pour les pays d'origine.
Salut Ousmane. Salut.
Cher frère Madou, tout ce que je peux te dire, il faut prendre du courage pour rester en France. Au Mali, c'est très dur. Si tu reviens au pays, s'en sortir sera toujours un problème. Tout ce que je te demande, c'est de rester encore. Au nom de notre fraternité, il faut tout faire pour m'envoyer 200 euros avant la fin de ce mois par Magas Tunkara. Je compte beaucoup sur la somme. Au nom de la famille, merci.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
On a énormément parlé du rôle des liens entre la famille et l'individu et l'idée d'un contrat implicite ou non dans le choix de départ. Mais la diaspora joue aussi un rôle dans le maintien de ces liens financiers avec la zone de départ qui constitue à tout simplement envoyer de l'argent, mais pas que. Awad, migrant soudanais, a procédé à l'achat d'une moissonneuse pour sa famille, aidée par Lula, membre bénévole d'une association d'aide aux réfugiés à Bruxelles, qui témoignaient tous deux dans un épisode des Pieds sur Terre diffusé en avril 2024.
Je sais qu'il envoie de l'argent régulièrement à sa famille, mais qu'à un moment, il décide de mettre de l'argent de côté parce qu'il a un projet. Et il me parle de ce projet, il me dit, voilà, en achetant un tracteur, je vais, parce que sa famille est une famille d'agriculteurs, éleveurs, et donc, en achetant un tracteur, il se dit que ça va être un outil qui va leur permettre plus de rendement et aussi de pouvoir louer cette machine. Au lieu d'envoyer de l'argent régulièrement, cette machine peut aider à générer de l'argent.
Un jour, j'ai trouvé un site de Bernard. Il voulait vendre sa moissonneuse. C'est Lula qui l'a téléphoné. Et il a pris un rendez-vous et on était chez lui pour voir le moissonneuse et parler pour le prix. Bernard, il était gentil, personne bien. En fait, c'est un grand moissonneuse, il fonctionne bien, il est bien entretenu. On a fait un tour, on a cherché le moteur et tout la tour de la moissonneuse. Quand elle arrivait, c'était comme une fête pour moi. C'est un jour spécial, j'ai fêté ici. On a préparé à manger, on a invité des gens, on a fêté à la maison. C'était à la fin de période difficile. Après, traverser le pire, mais c'était dingue, c'était fou ça. Avant, je pensais à ma famille plus que ma famille, et maintenant je vais penser plus à moi. Moi, je suis venu illégalement, mais le moissonneuse, elle est partie légalement. Ça me rend fier.
Avant, je pensais plus à ma famille. Maintenant, je vais penser plus à moi. Voilà ce que nous dit Awad. Dans quelle mesure, Flore Gubert, ces liens qu'on a évoqués tout au long de l'émission, et notamment financiers, entre ceux qui sont partis et de fait, une forme de retour sur investissement qui est exigé de la part de ceux qui sont restés, ou en tout cas, il y a une forme d'exigence morale aussi pour ceux qui sont partis. Dans quelle mesure cela pèse aussi économiquement sur ceux qui de fait, sont partis? Dans quelle mesure c'est aussi un fil à la patte, quelque part, et une forme d'empêchement?
Si vous voulez bien, je vais reprendre ce que disait Simonet tout à l'heure. Il parlait d'aide de fonction assurantielle. Je crois que c'est la fonction première, en fait, en tout cas dans l'esprit de ceux qui restent, c'est la fonction première du migrant. C'est-à-dire que celui qui part assure la subsistance de ceux qui restent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que ceux qui restent connaissent un aléa et donc subissent une perte de revenus qui menace leur subsistance, eh bien, le ou les personnes qui sont parties vont être sollicitées pour combler le manque de revenus.
Et c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction des besoins.
Exactement. Et donc, en fait, il va compenser les pertes de revenus de sorte que la famille, en fait, voit son niveau de subsistance assuré. Alors, quand le milieu d'origine est caractérisé par le fait que la principale source de revenus est l'agriculture, quand cette agriculture est très dépendante de la pluviométrie, par exemple, dont on sait qu'elle est mise en péril ou en tout cas qu'elle est contrariée par le changement climatique, eh bien, ce qui était des aléas récurrents mais pas très fréquents devient quelque chose de beaucoup plus régulier, etc. Et donc, ça veut dire que la charge qui incombe aux migrants de compenser les pertes de revenus agricoles, en fait, va devenir permanente et très lourde. Et donc ça, évidemment, ça menace ou ça rend compliqué la constitution d'une épargne individuelle.
Mais Flore Gubert, si on suit votre raisonnement et dans cette logique-là, on pourrait se dire que de la même façon que ces fonds-là servent de filet de sécurité, finalement, lors d'événements relativement imprévus ou relativement accidentels, on va dire, de la même façon, ça a vraiment des effets en termes microéconomiques, ces transferts de fonds. Ça peut permettre d'éviter le pire, tout simplement.
Tout à fait. En fait, on peut pour comprendre le raisonnement, on peut imaginer ce que c'est qu'un monde sans assurance. Un monde sans assurance quand les familles sont trop pauvres pour avoir de l'épargne ou pour avoir accumulé du bétail, par exemple, qui permettrait de faire face en cas de problème. Et ben, un ménage qui subit un choc, il est contraint de s'adapter pour assurer sa subsistance. Et cette adaptation, elle peut consister à déscolariser les enfants pour les mettre au travail. Elle peut consister à vendre de la terre, ce qui va menacer des flux de revenus futurs, puisque la terre, c'est l'outil de travail. Et donc, à contrario, si cette famille, elle est assurée, eh bien, ça veut dire que les enfants vont pouvoir continuer à aller à l'école. Quelqu'un qui est malade va pouvoir obtenir les médicaments pour se faire soigner. Et donc, à la fin, on voit que les transferts peuvent contribuer à accroître le niveau d'éducation et le capital santé de ceux qui restent. Et l'éducation et la santé, on le sait, sont deux piliers importants du développement.
Sachant, alors il nous reste quelques secondes avant de finir cette émission, mais sachant que les effets au niveau macroéconomique, eux, sont beaucoup plus contestables, en tout cas difficilement mesurables.
Oui, parce qu'encore une fois, on en revient à la principale explication, qui est que le nombre de migrants, le nombre de personnes qui partent reste relativement faible.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Flore Gubert et Simone Bertoli, d'avoir participé à cette émission. Alors, on n'a pas eu le temps de faire le tour de l'intégralité de tout ce qu'on aurait pu aborder, notamment celui du risque lié à une forme de dépendance vis-à-vis de ces fonds-là, et puis de rentrer dans le détail de ce que cela impliquait en termes de politique d'aide publique au développement, qui, de fait, découle de ces transferts de fonds, entre autres, et de ce choix de la migration, le sujet que nous avons abordé aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, et on se retrouve demain à 14h.